Bonjour chers auditeurs, au micro Catherine Mann pour l'émission Chemin de foi qui vient vous inviter à cheminer à la suite de quelques grands témoins de la spiritualité chrétienne. Nous allons accompagner cette fois Benoît-Joseph Labre, un saint atypique qui va nous entraîner dans un long et difficile pèlerinage à travers l'Europe du XVIIIe siècle. Lors de notre précédente émission, nous avions accompagné les derniers instants de la vie de saint Benoît Labre. Il est mort le soir du mercredi saint de l'année 1783 à Rome, après avoir prié toute la journée à l'église Notre-Dame-des-Monts, où il s'est effondré ensuite en sortant sur le perron. On le ramasse, mais comme il refuse d'être conduit à l'hôpital, on l'amène dans la maison d'un de ses fidèles amis, le boucher Zaccarelli, où il s'éteint doucement, en quelques heures, complètement usé par sa vie ascétique extrême et par plus de 30 000 km de pèlerinage à pied à travers l'Europe. Benoît Labre venait donc de s'éteindre à l'âge de 35 ans, comme un pauvre mendiant, un vagabond, qui se voulait anonyme parmi tous les miséreux si nombreux à cette époque. Cette mort aurait dû rester discrète et passer inaperçue, mais dès le matin, les enfants du quartier vont s'éparpiller partout pour en répandre la nouvelle. Ces mêmes enfants qui avaient harcelé, parfois d'une façon terriblement cruelle, ce mendiant qui était leur victime docile, docile aux moqueries et aux mauvaises blagues, ces enfants, ce sont eux qui vont courir partout en criant « Le saint est mort, le saint est mort ». Quel paradoxe! Il l'avait pourtant pourchassé tellement férocement qu'on croyait qu'il le méprisait, mais en fait, il devinait sa sainteté, il taquinait sa sainteté. Et comme dit le proverbe, la vérité sort de la bouche des enfants. En tout cas, les gens du quartier font confiance à cette rumeur qu'ils propagent eux-mêmes, et l'un après l'autre, tous ils accourent dans la maison du boucher pour rendre hommage au saint clochard. Mais bientôt, c'est une véritable foule qui arrive de tous côtés. Je vous lis le témoignage d'Anna Zaccarelli, la fille du boucher. Elle dit ceci: « Je peux dire en toute vérité que dans notre maison régnait le plus grand désordre. Et comme au lieu de diminuer, l'affluence ne faisait qu'augmenter de plus en plus, nous n'avions pas un instant de repos. Aussi dans l'après-midi, mon père dut-il faire venir des soldats de la caserne qui se trouve en face de notre maison. » Il en fit placer un piquet à la porte donnant sur la rue et un autre à celle de la chambre pour réglementer commodément l'entrée et la sortie, car la chambre mortuaire ne désemplissait pas. Au cours de l'après-midi, il fallut que d'autres soldats viennent en renfort. Voilà. Alors, une fois cette affluence bien commencée, on en arrive à réfléchir pour organiser une cérémonie funèbre. Et de l'avis général, on propose que la célébration des obsèques devait avoir lieu à l'église Notre-Dame-des-Monts, puisque c'est là que Benoît Labre aimait surtout se tenir pour prier. Mais des difficultés commencent à surgir, car en principe, les miséreux n'ont droit qu'à l'église Saint-Sauveur pour leurs funérailles avec un strict minimum de cérémonial. Il fallut donc parlementer longuement avec les responsables de Notre-Dame-des-Monts. Et finalement, la pression populaire a eu raison des résistances et on a pu conduire la dépouille de Benoît Labre à Notre-Dame-des-Monts, mais pour le moment dans la sacristie, car c'est le Jeudi Saint et il ne faut pas gêner les cérémonies religieuses. La foule qui l'accompagnait dut alors se retirer jusqu'au lendemain matin. Mais dès les premières heures du Vendredi Saint, l'église est prise d'assaut, immédiatement remplie de toute une population qui proclame la sainteté de Benoît et voulait pouvoir le vénérer. On dépose donc le corps au milieu de l'église et on organisa tant bien que mal le défilé du peuple qui se pressait pour espérer toucher le corps. il fallut de nouveau faire appel aux soldats pour organiser la cohue et empêcher le débordement des marques de dévotion. Voici un témoignage qu'en a laissé donc l'ami de Benoît, l'arbre, le boucher Zaccarelli. C'était un beau spectacle de voir l'église toute pleine de monde, plein le corridor, pleines aussi les places et les rues qui conduisaient à l'église. Le nombre des carrosses qui allaient et venaient était énorme, et innombrables étaient les personnes de toute qualité, condition et sexe. On y voyait des hommes, des religieux, des prêtres, et toutes sortes de gens attendre et essayer d'entrer à l'église malgré les difficultés pour contempler la dépouille du serviteur de Dieu. Voilà, et tout continue et même s'amplifie encore le lendemain, samedi saint. On dut encore augmenter le nombre des soldats pour le maintien de l'ordre. Il faut dire que la ferveur était telle que le bruit de quelques guérisons miraculeuses commença à se répandre. On disait qu'une femme fut guérie qui avait souffert depuis 3 ans d'ulcères à la gorge qui l'empêchaient de parler. Elle avait aussi un anévrisme. Elle s'était traînée dans l'église au bras de sa sœur et soudain, voilà que, pleine de joie, elle s'était mise à parler d'une voix claire. Alors, bien sûr, en même temps que la foi au miracle, l'inverse aussi va apparaître. Des soupçons, même à propos de la personne de Benoît. Des gens respectables commencent à s'étonner parce que celui qui reçoit à présent tant d'honneur, aimé Rome en ébullition, n'était en fait qu'un pauvre clochard repoussant et quasi détesté à cause de sa misère et surtout de sa saleté. Pourquoi donc fait-on maintenant tant de cas de sa personne ? En fait, on commence à comprendre que c'est surtout le peuple qui vient pour rendre hommage à l'un des siens, car la pauvreté de Benoît Labre représentait aussi beaucoup de celle des habitants de Rome à l'époque. Le jour de Pâques 1783, le corps de Benoît Labre est toujours exposé dans l'église Notre-Dame-des-Monts et la densité de la foule est telle qu'on n'arrivera même pas à y célébrer la messe. Voici ce que raconte un témoin, Constantin Kremaski, témoin de cette journée. Bien que le jour commençait seulement à poindre, il y avait une quantité de gens qui attendaient que l'on ouvre la porte, celle qui mène au corridor où le corps était exposé. Effrayé par cette cohue, je tentai de passer par la sacristie. Mais les soldats m'en empêchèrent ayant reçu l'ordre de ne laisser passer que les seuls prêtres qui venaient pour célébrer la messe. Même un prélat qui avait demandé l'autorisation d'entrer se la vit refuser. La foule devant la porte devenait de plus en plus nombreuse, au point que l'on ne touchait plus les pieds par terre. Il se faisait grand tumulte, et beaucoup se plaignaient de la bousculade et de l'impossibilité de pénétrer à l'intérieur. Pendant 2 heures, je fis mon possible pour y parvenir. Mais constatant que la multitude augmentait encore, je résolus de m'en aller, à mon grand regret. Ce qui pourtant me consolait, c'était d'entendre que tous proclamaient saint le serviteur de Dieu. Je finis par sortir de l'église, mais partout où j'allais, on ne parlait que de Benoît. Il règne donc à Rome une effervescence incroyable et inévitablement va commencer partout la chasse aux reliques. Ainsi, dans la maison du boucher Zaccarelli, donc là où Benoît Labre est mort, et malgré toutes les précautions militaires prises pour protéger l'accès, une partie de la maison fut pillée, donc la couverture qui entourait Benoît a été découpée, son oreiller a été déchiré pour prendre de la laine, enfin, voilà. Mais pas seulement la maison, aussi les confessionnaux de l'église. Là où Benoît avait l'habitude de se rendre, l'image pieuse devant laquelle il se recueillait, priait, a été volée. Et aussi dans d'autres églises, partout où il passait, tout ce qu'il avait touché disparaît. Alors, pendant ce temps, à l'église Notre-Dame-des-Monts, des maçons ont commencé à creuser un caveau afin d'y déposer le cercueil de Benoît Labre. Il sera donc enterré dans l'église. Et puis, le cérémonial d'inhumation de Benoît commence. Il y a d'abord un chanoine et un notaire qui sont chargés de reconnaître officiellement le corps de Benoît. Puis, un médecin chirurgien va procéder à divers examens et tests sur son corps. D'après l'abbé Marconi qui assiste à cette opération, le chirurgien ne constate aucune marque de décomposition ou de corruption, comme on dit. Le défunt a un aspect naturel, comme s'il venait d'expirer. Son corps est resté souple et flexible, et bien que le décès remonte déjà à 4 jours, il n'exhale aucune mauvaise odeur. On reconnaît là donc toutes les démarches préalables à une éventuelle future canonisation, tous ces examens. Mais il faut quand même reconnaître qu'il est surprenant que ce vagabond clochard, qui ne s'était plus lavé depuis des années et était connu pour l'odeur nauséabonde qu'il dégageait à faire fuir les gens sensibles, une fois mort, il ne présente plus aucune mauvaise odeur. Là, nous sommes vraiment proches du miracle. Ensuite, son corps est enveloppé d'un linceul et placé dans un cercueil de bois dans lequel on dépose aussi une biographie de Benoît Labre, rédigé par l'abbé Paul de la Rovère. Le tout est ensuite placé dans un deuxième cercueil et enfin déposé dans le tombeau. Alors, on pourrait croire qu'une fois enseveli, Benoît Labre ne ferait plus parler de lui. Mais pas du tout. Sa renommée ne faiblit pas et même grandit de jour en jour. Dès le lundi de Pâques, une foule immense arrive au tombeau, provoquant une cohue indescriptible et un désordre tel que les soldats n'arrivent plus à la contenir. Une femme racontera qu'elle a voulu prier sur le tombeau, mais qu'elle a renoncé de peur d'être écrasée par la foule. Un médecin de Rome qui raconte les événements dans une lettre qu'il adresse à sa sœur carmélite en France dit ceci : le témoignage que rendait de sa piété ceux qui le connaissaient pour l'avoir vu continuellement à l'église, depuis le matin jusqu'au soir, ceux des pauvres avec qui il partageait tous les jours les aumônes qu'il recevait, et il refusait même quelquefois, quelques paroles heureusement échappées à son confesseur qui est en grande réputation de sainteté, tout cela excita la confiance et la ferveur du peuple qui commença bientôt à l'invoquer comme bienheureux. Et en effet, beaucoup de ceux qui accourent au tombeau de Benoît Labre le font déjà pour demander son intercession. Et les nombreux malades viennent pour implorer leur guérison. Toujours dans sa lettre à sa sœur Carmélide, le médecin ajoute « Même des cardinaux ont voulu voir la merveille et se convaincre par leurs propres yeux des miracles qui s'opéraient à chaque instant sur ceux qui l'invoquaient. Depuis le moment de son inhumation de Rome et des environs, c'est un concours extraordinaire qui ne ralentit point. On ne cesse de visiter le tombeau du bienheureux qui, de son côté, ne cesse de faire des miracles en faveur de ceux qui l'invoquent avec foi. Les muets parlent, les aveugles voient, les paralytiques et les perclus marchent librement sans aucun secours. Voilà un spectacle dont toute la ville est témoin. Je ne saurais vous exprimer combien il excite l'admiration et la surprise. Les incrédules comme les autres en sont attendris jusqu'aux larmes. Quel triomphe pour la religion !» Donc, dans ce contexte de ferveur populaire, on attribuera très vite à Benoît Labre une multitude de miracles. Ainsi, dès le 30 avril, et rappelons que Benoît est mort le 16 seulement, un prélat va déclarer « On ne parle plus à Rome que des grandes merveilles que Dieu continue d'opérer par le moyen du saint défunt. Le concours à son tombeau est immense. » Les princes et princesses y accourent avec une vraie dévotion comme le reste du peuple. Il s'y est opéré un grand nombre d'insignes miracles. La sacristie de l'église est déjà remplie de dépôts des infirmes qui sont retournés chez eux guéris. Depuis Saint-Philippe de Néry, on n'a pas vu une chose semblable dans Rome. Voilà donc, et c'est... le clergé lui-même qui constate, rappelons quand même, que nous sommes au siècle des Lumières et que la religion est forte ébranlée par un scepticisme des intellectuels. Alors peut-être un peu moins en Italie, mais quand même un tel enthousiasme autour de la mort de Benoît Labre va évidemment susciter aussi un mouvement de méfiance. Extraordinaire enthousiasme religieux se déclenche donc dès la mort de Benoît Labre et se communique rapidement partout en Europe, partout là où ses pèlerinages nombreux l'avaient fait connaître. Un an après sa mort, en 1784, paraissait déjà à Paris la première biographie de celui que tout le monde considérait déjà comme un saint. Il s'agit de la vie édifiante de Benoît-Joseph Labre, de l'abbé Joseph Marconi, qui fut l'un de ses confesseurs. Alors, celui-ci écrit quand même au début de son livre un avertissement pour le lecteur. Il dit « Fidèle à la loi de l'histoire, on a parlé des choses extraordinaires arrivées aussitôt après la mort de Benoît-Joseph Labre et des guérisons miraculeuses attribuées à son intercession. » Mais non moins fidèle aux lois de la critique, on n'a point donné à de simples présomptions la certitude et les caractères de la vérité. Voilà. Il semble donc que Joseph Marconi a voulu donner à sa biographie une historicité qu'il voulait prudemment, quasi scientifique, pour couper court d'emblée à toutes les critiques qui n'allaient pas manquer de surgir. Il faut dire que l'incroyable quantité de miracles recensés depuis la mort de Benoît Labre prête facilement à sourire, tant cela semble exagéré. Voici une réflexion ironique du père Joseph Richard dans son livre sur Benoît Labre, paru assez récemment, en 1982. Il dit ceci. « Et dire qu'il y a des saints avares de miracles qui mettent au désespoir les postulateurs de leur cause. Pour Benoît Labre, il y en a eu plus qu'il n'en faut. En Italie, il pullule, allant de la guérison la plus bénigne aux apparitions et aux résurrections. Et l'aspect pittoresque de ces miracles ne fait pas défaut. » Voilà, donc, c'est une biographie contemporaine. Et le prêtre continue en illustrant par quelques témoignages qu'on a pu recueillir aux archives nationales. Je vous lis. Donc. Ainsi, le 27 avril 1783, donc 11 jours après le décès du saint, une femme fut guérie d'une hydropésie affreuse. Sa prière finie, on vit à l'instant sortir du talon de la malade une eau fétide qui inonda la pierre du sépulcre. Peu de jours après, une fille âgée de 22 ans, sourde et muette de naissance, reçut tout à coup l'usage de l'ouïe et de la parole, et à l'instant même, elle se mit à parler. Mais elle ne pouvait articuler aucun mot, puisqu'elle les ignorait. On est en train de l'instruire actuellement. Aussi, un jeune homme à qui la petite vérole avait laissé aux yeux une humeur telle qu'il les lui avait rongées, il les a à présent aussi beaux qu'on puisse les avoir. Etc., etc. Donc une profusion de miracles à Rome sur le tombeau de Benoît Labre. Mais pas seulement. Il y en a un peu partout dans le monde, et particulièrement en France, dans de nombreuses villes, et bien sûr à Hamet, le village natal de Benoît. Le père Joseph Marconi écrit ceci dans une lettre. Ces miracles n'ont pas été opérés en un seul endroit, mais dans plusieurs, très éloignés les uns des autres, car des lettres envoyées de Constantinople et d'Amérique rapportent qu'il s'en est opéré aussi, non d'une seule personne, mais de plusieurs, de tous âges, de tout sexe, de toutes conditions, en faveur non seulement des pauvres, mais aussi des riches, non seulement des roturiers, mais aussi des nobles, en la personne des ignorants comme des savants. Des milliers de personnes en sont témoins oculaires. Donc dans le monde entier. Mais tous ces miracles, en quantité extraordinaire, n'est-ce pas justement trop beau pour être vrai? En tout cas, une opposition commence à naître. Des détracteurs virulents qui ne veulent absolument pas croire ni à la sainteté de Benoît, ni aux miracles qui lui sont attribués. Et le plus virulent d'entre eux, d'abord, c'est le cardinal François de Pierre de Berny, l'ambassadeur de France auprès du pape. Il dit dans un courrier fin avril 83, donc 1783, « On n'avait jamais parlé de lui avant sa mort. Mais au moment de son décès, le bruit de sa sainteté se répand en un instant et universellement dans la capitale, ce qui semble prouver que le parti dominant ici a jeté les yeux sur ce pieux mendiant pour en tirer avantage selon ses vues. » Voilà. Ce cardinal français interprète donc la situation comme la manipulation d'un groupe religieux. Et cela signifie pour lui les jésuites, qu'il haïssait et dont il avait poussé à la dissolution de l'ordre par le pape Clément XIV. Ainsi, il voit, donc je le cite, « chez les chefs de cette secte puissante, les zélés protecteurs de la sainteté de ce pauvre Français et la vérité de ses prétendus miracles. » Voilà. On voit donc que le complotisme n'est pas une invention d'aujourd'hui. C'était déjà une manière de soupçonner de sordide manigance des jésuites vivant désormais, on le sait, dans la clandestinité et qui auraient eu intérêt à créer de toutes pièces la sainteté de Benoît Labre. Mais quel intérêt ? Puisque Benoît n'avait jamais rien eu à voir avec la jésuite. À qui profiteraient donc ces simulations et ces manipulations de masse? Parce que c'est quand même des milliers de gens. En fait, les protestations du cardinal de Bernis ne rencontrent pas vraiment un énorme soutien. Elles apparaissent trop manifestement obsessionnelles. Par contre, elles vont inciter la hiérarchie ecclésiastique à plus d'enquêtes et d'investigations pour vérifier justement soigneusement les récits qui circulent à propos de Benoît Labre. Et donc, l'enquête démarre et de nombreux témoignages vont arriver de partout, surtout de France, de ceux qui ont accompagné l'enfance et la jeunesse de Benoît, et particulièrement de l'évêque de Boulogne. Et tous font l'éloge du jeune mendiant, de sa profonde piété, de son humilité, de son assiduité à la prière, de son amour de la sainte pauvreté, tout autant que de sa générosité et de son souci d'aider les plus nécessiteux. Bref, ne viennent rien que de bonnes choses. Mais comme dit le proverbe, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, le cardinal de Bernis s'attaque alors aux auteurs des éloges. Il accuse l'évêque de Boulogne d'être favorable aux jésuites. Il va même jusqu'à critiquer le livre de chevet du pauvre Benoît. Pas si vous vous souvenez, on avait dit que ce livre ne le quittait pas depuis son enfance, les œuvres du père Lejeune, dont il s'était inspiré depuis le départ. Et voilà donc que le cardinal soupçonne et accuse le père Lejeune d'être convaincu de jansénisme. Voilà. Et du coup, Benoît Labre est soupçonné de collusion janséniste, tout en se voyant inféodé aux jésuites par l'intermédiaire de son confesseur Joseph Marconi, lui-même soupçonné de connivence avec les jésuites. Et voilà, comme nous le savons, dès qu'il s'élève ainsi de vilaines petites fumées noires un peu partout, on en arrive vite à se dire qu'il y a forcément du feu quelque part. Et la réputation de Benoît Labre commence à se trouver compromise. Nous verrons la prochaine fois les suites données à toutes ces critiques. À présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Et apparuit si mort.